L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Notre partenaire du jour, c'est Eaux et Rivières de Bretagne, en compagnie aujourd'hui de Jean-Yves Carmarec, président de l'AAPPMA de l'Élorne. L'AAPPMA, ça signifie Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Il y en a 25 dans le Finistère, car il y a beaucoup de rivières dans le Finistère. Souvent, une AAPPMA est en effet rattachée à une rivière, surtout si c'est un fleuve comme l'Élorne, car l'invité d'Eaux et Rivières de Bretagne, donc, préside l'AAPPMA de l'Élorne, Jean-Yves Carmarec. Bonjour Jean-Yves Carmarec. On a perdu Jean-Yves Carmarec. On va devoir essayer de le rappeler. Et bien sûr, eh ben, il y a quand même Arnaud Clucherie, le directeur opérationnel d'Eaux et Rivières de Bretagne, qui est là aussi. Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors on va, puisque Jean-Yves n'est pas là pour l'instant, on va demander peut-être à Eaux et Rivières de réexpliquer, même si on en a déjà parlé, les liens entre les associations de pêcheurs et Eaux et Rivières de Bretagne.
Alors en fait, les liens, ils sont, c'est un lien de filiation direct, puisque Eaux et Rivières de Bretagne s'appelait à l'origine l'APPSB, l'Association pour la production et la promotion des salmonidés en Bretagne, et donc est née en 1969 du rassemblement d'un grand nombre de pêcheurs, tous fans de ce poisson mythique qu'est le saumon. Et du coup, on trouve dans les gènes d'Eaux et Rivières de Bretagne, à son origine, énormément de pêcheurs de saumon qui eux-mêmes étaient membres des sociétés de pêche dans leur territoire et aussi acteurs justement de l'activité de ces sociétés de pêche. Et donc, il y a un grand nombre, alors dans la centaine d'associations d'Eaux et Rivières, d'associations membres d'Eaux et Rivières, on retrouve près de 20 à 25% de ces associations qui sont des APPMA, donc des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, et parmi lesquelles la APPMA de l'Élorne est finalement la plus proche de nous, puisque Jean-Yves vous le dira, mais il y a évidemment une proximité presque familiale entre la APPMA de l'Élorne et Eaux et Rivières de Bretagne.
Alors, est-ce qu'on a retrouvé Jean-Yves Carmarec? Vous êtes là?
Oui.
Ah, bon, vous avez perdu momentanément.
J'avais plus de tonalité.
Ah, bon, vous êtes là à nouveau, on va essayer de vous garder. Alors, on se demandait ce qu'était une APPMA. Bon, on a donné juste, on a explicité le sigle, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Alors, APPMA, c'est l'organisation de base de la pêche en France. Il y a un peu plus de 3700 APPMA en France, répartis sur le territoire national. Et il y en a 25 dans le Finistère. Donc, chapeauté par une fédération départementale, dans chaque département, et une fédération nationale.
Et donc, ils font un agrément, c'est ça?
Alors, les APPMA sont des associations, comme dit le sigle, associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Donc, les APPMA ont un agrément de la préfecture. Ce sont des statuts types qui sont les mêmes pour toutes les APPMA de France et de Navarre. Donc, le président de chaque association ainsi que le trésorier sont agréés également par le préfet. Et les comptes rendus d'activité annuels doivent être transmis selon un protocole bien précis chaque année, ainsi que le compte rendu financier à la préfecture.
Et en fait, est-ce qu'il y a une, comme je disais en introduction, il y a un peu une association par rivière, je caricature un peu, mais c'est quand même ça finalement, non?
Alors, ça devrait être ça si c'était logique, mais c'est pas du tout comme ça, parce qu'il n'y a rien de logique. Les territoires ont été dessinés surtout à la fin des années 50, donc il se trouve donc qu'il y a des APPMA qui gèrent plusieurs bassins versants, d'autres qui gèrent que des petits bouts. Et donc sur une même rivière, un même bassin versant, des fois il y a 2-3 APPMA différentes.
Parce que c'était l'État qui avait fait la répartition,
non, c'est ça? Non, ça c'était des accords qui ont été repris dans les années 50, avant que les associations de pêche soient mises en forme au niveau français. Il y avait déjà des débuts d'associations qui travaillaient comme ça, c'est les pêcheurs qui ont mis ça en place, donc ils ont tenu compte des réalités sociales de l'époque, quoi, ce qui fait que ça fait un découpage qui n'est pas toujours très cohérent en termes de gestion
Et il n'y a pas de réforme qui soit envisagée, justement, pour rendre ça un peu plus simple?
Oh là là, ça n'arrête pas les réformes dans le monde de la pêche, plus administratives qu'autre chose d'ailleurs, la plupart du temps. Mais non, bon, chaque fédé, en général, essaie d'encourager. Alors, évidemment, la situation, elle est complexe, parce que la France, c'est un assez grand pays, malgré tout. Et donc, vous imaginez bien qu'une APPMA sur des rivières, sur des grands fleuves, c'est pas du tout la même dimension que sur les petites rivières côtières de Bretagne. Autant il devrait être facile et aisé de mettre en place une APPMA par bassin versant, vu la taille de nos rivières qui sont pas très grandes, à part l'Aulne, la Vilaine et le Blavet. Bon, toutes les autres ont une taille qui fait qu'on pourrait avoir une APPMA de la source à la mer, ça serait logique, quoi. La PPMA est une des rares à gérer une rivière, un fleuve côtier entier, les Lornes des sources à la mer. Mais on gère aussi d'autres petits bouts de rivière qu'on partage avec d'autres APPMA, par exemple la Flèche qui jette à Kérema, qui est gérée dans le bas par la PPMA des Abers. Et nous, on gère la partie haute, même chose sur l'Orne à Plouverne. La partie basse est gérée par la PPMA de Morlaix et la partie haute par nous.
Et quand vous dites gérer, alors il faut qu'on comprenne. Quand vous dites gérer, donc il faut qu'on comprenne un peu les missions des APPMA. Qu'est-ce que vous êtes chargé de faire en fait?
Alors les statuts des APPMA, il y a en gros 8 points qui sont précisés dans les statuts types. Donc premièrement, détenir et gérer les droits de pêche sur les domaines publics et privés de l'État, sur les domaines publics et privés des collectivités locales. Et sur les domaines privés des propriétaires, sachant qu'en Finistère et en Bretagne, l'écrasante majorité des cours d'eau sont du domaine privé, ça appartient à des propriétaires privés. Deuxième point pour les APPMA, c'est de participer à la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole par la lutte contre le braconnage, avec les gardes de l'Office français de la biodiversité, la gendarmerie, etc. Et surtout, et ça c'est un point essentiel, de participer à la lutte contre la pollution des eaux, ou toute autre cause qui ont pour conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie des poissons. Troisièmement, on doit organiser la surveillance, la gestion, l'exploitation équilibrée, ça c'est les termes précis des droits de pêche, dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole. Ça c'est fait en lien avec la fédération départementale. Quatrièmement, on peut effectuer sous réserve d'autorisation nécessaire toutes les interventions de mise en valeur piscicole.
C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire faire des mises en valeur piscicole, enfin des interventions de mise en valeur piscicole?
Ah bah c'est un point très important, c'est l'entretien des cours d'eau, c'est-à-dire que l'entretien de la végétation le long des rives, l'enlèvement des embâcles, la restauration de berges lorsqu'elles sont détruites par les crues. Diversifier les fonds dans certains endroits en apportant des roches ou des choses comme ça. Donc il y a tout un tas d'actions qui peuvent être menées.
Il y a Arnaud qui voulait dire quelque chose.
Oui, bonjour Jean-Yves déjà.
Salut.
J'ai pas pu intervenir au bon moment, mais Jean-Yves tout à l'heure dit dans le point 2, une mission essentielle qui est celle de la lutte contre la pollution des eaux, elle est essentielle pour la PPMA de l'Élorne et c'est ce qui en fait évidemment un partenaire d'eau et rivière historique. Ça n'est pas assumé par toutes les APPMA. On rentrera peut-être un peu dans le détail dans la conversation, mais en effet, cette mission-là, elle est très importante pour la protection des milieux. Elle est assumée pas toujours de la même façon selon le territoire sur lequel on se trouve.
Mais celle de l'Élorne apparemment le fait. Oui, donc Jean-Yves Camarec, vous pouvez continuer sur les missions. Hein.
Oui, alors cinquième point, favoriser les actions d'information, la promotion des actions d'éducation dans le domaine de la protection des milieux aquatiques, de la pêche. Sixièmement, collaborer à des études et programmes scientifiques qui portent sur la faune et la flore. Ça, c'est très important sur nos rivières de Bretagne, qui sont des rivières à salmonidé, où là, il y a des très grosses mobilisations, de scientifiques comme l'INRAE.
Donc, vous faites des prélèvements de saumons.
Vous
faites des prélèvements de saumon. Ça consiste en quoi vos recherches, enfin votre participation aux recherches?
Alors. Sur une rivière comme les Lornes, mais c'est pas la seule, il y a par exemple une trappe de comptage qui permet de compter les migrateurs qui montent dans la rivière tous les ans. Donc ça, il faut suivre ça au quotidien. Et ça, ça c'est suivi en cadre de protocoles scientifiques internationaux pour tout ce qui est les espèces qui sont en danger aujourd'hui, le saumon atlantique, la truite de mer, la loze, l'anguille, etc. Il y a aussi à faire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, ce qu'on appelle les cartographies d'habitat, bon, qui ont été faites un peu partout sur les rivières à Saint-Onidée, pour essayer d'évaluer la production naturelle des cours d'eau, pour qu'on ait une fiche type de l'état des lieux sur chaque rivière. On a par exemple des inventaires piscicoles qu'on fait tous les ans à la même époque pour voir quel a été le résultat de la ponte des saumons sur les zones de frayère, voir combien année après année, quelle est comment évoluent les densités de jeunes saumons. Bon, et puis toute une foule d'actions qui sont encadrées par les protocoles scientifiques.
Bah, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut être nombreux pour faire ça. Alors, vous êtes combien dans la PPMA de l'Élorne ?
Que plus.
Pardon ?
Allô, je vous entends très peu, là.
Ah, je disais, c'est là qu'on voit qu'il faut être nombreux, quand même, pour pouvoir réaliser toutes ces missions. Vous êtes combien dans la PPMA de l'Élorne ?
Alors, pour ce qui est des programmes scientifiques, nous, on contribue, on collabore, mais c'est pas nous qui... par exemple, on participe physiquement aux actions de pêche électrique, des choses comme ça, où on accompagne les scientifiques quand on fait des mesures ou des choses comme ça. Mais ça, c'est encadré par, dans le cadre d'études qui ont souvent des financements nationaux ou européens. Quoi.
Ouais, mais sinon, alors, combien, pour le reste...
Est-ce qu'on est nombreux ? La société de pêche de l'Élorne est une des rares sociétés de pêche qui a des salariés, même si on en a malheureusement de moins en moins. Mais on en a eu jusqu'à 9. Là, actuellement, on en a 3. Et puis, on a surtout un bénévolat très fort. On a un conseil d'administration qui est très actif. On a 14 personnes. Bon, ceux qui sont à la retraite sont un peu plus présents que les autres, bien sûr, qui sont en activité. Mais bon... Il y a une forte mobilisation quand même des bénévoles, quoi.
Et puis, vous travaillez justement, je suppose, avec des associations comme Eau et Rivière, sur des chantiers, par exemple, précis, par exemple.
Alors, avec Eau et Rivière, il y a plusieurs actions qui sont menées depuis longtemps. Bon, je veux dire, je citerai une action phare, c'est toutes des actions juridiques, puisque comme on peut ester en justice, et ça c'est une de nos missions fortes, du moins chez nous, la PPMA de l'Élorne, c'est d'agir contre les pollutions et de mener des procès contre les pollueurs, que ce soit sur les procédures civiles ou sur les procédures pénales. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Donc là, on travaille de manière très étroite avec Eau et Rivière, et on travaille aussi avec Eau et Rivière au sein des structures qui gèrent ce qu'on appelle les SAG, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui sont les collectivités qui gèrent ça par bassin versant généralement. Donc il y a là-dedans, il y a des collèges associatifs, usagers divers, élus, etc. Et donc, par exemple, au SAG de l'Élorne, mais c'est vrai pour un tas d'autres SAG en Bretagne, il y a un collège associatif, et là on travaille très près avec Eau et Rivière dans toutes ces réunions qui servent à suivre un peu toutes les actions de reconquête de la qualité des eaux qui ont été mises en place par les collectivités.
Là, on est en période, je crois, où la pêche va bientôt s'ouvrir, à moins que ça soit déjà ouvert. Comment est-ce que ça se présente ?
Alors, la pêche est ouverte depuis le week-end dernier. Ça se présente. C'est toujours la question qu'on nous pose qui fait toujours un peu rire les gens qui gèrent les rivières. Parce que, en fait, c'est la météo qui commande souvent les conditions de pêche, si on parle du loisir pêche. Donc comment ça se présente on a encore la chance d'avoir beaucoup de rivières en bon état, donc on a encore pas mal de truites sauvages dans nos rivières bretonnes et finistériennes. Donc les échos que j'ai eus, j'ai surtout suivi les larmes et puis deux ou trois autres rivières à côté. Bon, pour la truite, c'est les échos qui ont été plutôt corrects. Pour le saumon, par contre, ça se présente pas bien du tout. Au bout d'une semaine, on a des chiffres de capture très faibles encore cette année. Ça démarre pas très bien.
Est-ce que Eau et Rivière a un avis sur le pourquoi du comment ?
Un avis sur le pourquoi du comment l'état de la population piscicole. Pas plus avisé que celui de Jean-Yves, ça c'est certain. Par contre, juste replacer ça dans un contexte d'espèces qui ont des besoins, des habitats à l'international. Donc là, on parle d'une gestion à l'échelle de la planète et qui sont elles-mêmes victimes de tous les maux de la planète, hein, réchauffement climatique, surpêche dans les océans, et avec notre part de responsabilité pour la partie qui concerne le cycle de vie qui se produit en Bretagne. Et comme je le dis souvent, je l'ai déjà dit à ce micro-là, on a nos responsabilités vis-à-vis de la biodiversité et on a nos propres espèces menacées. Le saumon atlantique en Bretagne, c'est l'éléphant ou le tigre de Bengale des Bretons. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui permettre de faire son cycle de vie. Et là-dessus, les associations de pêcheurs qui... Alors Jean-Yves ne l'a pas trop développé, mais leur mission de gestion, de garderie, les chantiers bénévoles, j'espère qu'on y reviendra, parce que devenir pêcheur, c'est aussi rejoindre une communauté de citoyens qui agissent pour l'environnement. Ce n'est pas simplement sortir des poissons de la rivière, quoi.
Mmh. Et Jean-Yves Carmarec, justement, donc c'est la PPMA qui, je suppose, délivre les cartes de pêche, c'est ça ?
Oui.
Et est-ce que là, vous avez par exemple comment se porte la population cette fois des pêcheurs ? Est-ce qu'il y a toujours des demandes ? Est-ce qu'il y en a moins ?
Alors, les cartes de pêche, c'est régi par une organisation nationale. Il y a des tarifs. Alors, il y a plusieurs parties dans le prix de la carte de pêche. Il y a une taxe qui va aux services nationaux, une partie qui va à la fédération. Donc, tout ça, c'est selon des tableaux assez complexes et qui sont valables. Avec certaines variantes en fonction des rivières et en fonction des régions, mais enfin, c'est un peu un cadre qui est un peu contraint, même s'il y a une taxe locale. Donc, ça, déjà, première chose, c'est on ne peut pas faire n'importe quoi, puisqu'il y a un pourcentage très précis qui retourne aux structures fédérales et au niveau départemental et national. Alors, comment se portent les cartes ? Bon, chez nous, sur les Lornes, on ne se plaint pas, ça se porte plutôt bien. On a eu des baisses à une certaine période. Depuis 3 ans, c'est en amélioration. Puis ça a l'air de revenir bien encore cette année. Mais enfin, là, la pêche vient simplement de s'ouvrir. On fera un bilan à la fin de la saison, parce que les gens peuvent acheter des cartes de pêche en cours de saison. Mais enfin, ça se présente plutôt bien. Alors après, si on observe la vente des cartes de pêche depuis les années 60, là, par contre, c'est la déconfiture. Hein. La Ragne dans le Finistère, j'ai plus les chiffres très précis en tête, mais on doit être à entre 15 000 et 20 000 pêcheurs de truites dans le Finistère dans les années 60. On est actuellement à moins de 5 000, quoi.
Et justement, les nouvelles dimensions du fait d'être pêcheur, c'est-à-dire qu'on est pêcheur, mais on est aussi quelque part celui qui protège la rivière, qui l'entretient, etc. Est-ce que ça ne peut pas attirer un nouveau public ?
Vous savez, la Bretagne est comment, j'allais dire, exemplaire dans ce domaine-là depuis très longtemps. C'est d'ailleurs aux rivières qui a impulsé tout ça, qui a lancé les chantiers de nettoyage de rivières, ce qu'on a appelé l'éco-citoyenneté avant l'heure, dès la fin des années 60. Et puis, il y a un certain nombre d'APPMA qui ont embrayé, mais pas toutes. Alors, en Bretagne, c'est en gros rentré dans les mœurs, puisque les chantiers de rivières bénévoles, on peut dire qu'ils ont été mis en œuvre à l'échelle de la France, c'est en Bretagne que ça a démarré. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps, mais ça n'évolue pas forcément favorablement. Le nombre de bénévoles sur les chantiers, sur les différentes rivières, on a des relations avec tous les autres collègues des autres APPMA, globalement, c'est au mieux ça stagne et au pire, dans certains secteurs, le nombre de bénévoles diminue parce que l'âge moyen des pêcheurs vieillit. Et donc, ils sont plus là ou ils sont plus en forme. Et puis les jeunes, il y a quelques-uns qui sont très actifs, mais globalement, en nombre, ils diminuent.
Les jeunes, justement, ou les nouveaux pêcheurs, comment est-ce que vous leur apprenez à pêcher ? Parce que ça s'apprend. Enfin, est-ce que vous avez un aspect formation aussi ?
Alors, aujourd'hui, il y a des guides de pêche professionnels depuis quelques années, un peu partout en France et particulièrement en Bretagne. Donc, ces gens-là font des cours gratuits pour différents types de pêche, pour les adultes, pour les enfants. Et puis, on a des organismes. Par exemple, il y a une particularité sur les Lornes, il y a la Maison de la Rivière à Sizun, qui a un équipement un centre d'interprétation de la rivière et des eaux, dont la Maison de la Rivière de la Biodiversité de Sizun accueille des jeunes pêcheurs pour les encadrer avec des guides de pêche qui ont les diplômes pour ça, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut savoir, en fait, quand on débute
Qu'est-ce qu'il faut savoir? J'allais dire que avant la transmission se faisait entre le père, le fils ou un grand-oncle qui pêchait, etc. C'est plus le cas maintenant. C'est pour ça que maintenant on passe par ce genre de formation. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors c'est une école de patience déjà, hein. Même si, contrairement à ce qu'on pense, la pêche à la truite et au saumon, c'est assez sportif si on le pratique correctement. On marche beaucoup, faut beaucoup d'attention, faut beaucoup de sens de l'observation. Alors, surtout si on pêche à la mouche, là, ça on rentre au cœur de la nature, au cœur de la rivière, avec tous les insectes, les invertébrés, tout ça. Donc ça, il faut une connaissance, si on pêche à la mouche, il faut une connaissance assez pointue de tous les insectes, les éphémères, etc., qui sortent pas toutes à la même époque de l'année, en fonction de la saison, etc. Donc il y a toute cette approche de la rivière, de la faune aquatique, de la flore aquatique qui est importante, et l'observation des poissons. Mais et puis surtout, faut être tenace, parce que si on pêche, parce que là on pourra en parler jusqu'à demain matin, il y a différents types de pêche. Il y a une différence entre pêcher des truites arc-en-ciel qu'on déverse la veille de l'ouverture dans des étangs. Ça se pratique de moins en moins, mais ça se pratique encore. Puis bon, ça peut se concevoir dans certaines conditions, mais ça n'a rien à voir avec la pêche à la truite fario dans les rivières et dans les ruisseaux, qui sont des poissons sauvages. Donc ils ne sont pas faciles à prendre, qui fonctionnent en fonction de la météo, qui peuvent ne pas mordre du tout pendant les longues séries de nombreuses journées, et puis qui vont se mettre à mordre pour des raisons de pression atmosphérique, etc. Donc ça, c'est tout sauf de la société de consommation, quoi. Et donc aujourd'hui, les gens, et surtout les jeunes, sont habitués à avoir des choses assez ludiques. Il faut qu'il y ait des écrans, il faut qu'il y ait un tas de choses. C'est pas trop dans l'air du temps, quand même, malgré tout. Mais par contre, les gens qui découvrent ça, après, sont souvent surpris et sont souvent ravis. Mais il faut quand même une volonté d'approcher la nature avec une grande patience.
Ah, ça va peut-être revenir avec ces histoires de confinement, on apprend plus la patience. Pour terminer l'émission, il reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des dossiers qui vous préoccupent plus particulièrement en ce qui concerne les Lorne?
Alors, en ce qui concerne les Lorne et puis les secteurs dont on a la gestion, oui, ce qui nous inquiète, nous, mais bon, on a plein de sujets d'inquiétude. On a deux gros sujets d'inquiétude en ce moment. Un projet à l'implantation d'une usine de méthanisation avec un gros élevage industriel de production de lait à Comana, tout près du lac du Drenac, une zone qui aurait dû être mise en périmètre de protection compte tenu de son rôle majeur pour l'alimentation en eau de plus de 300 000 Finistériens. Et les collectivités ont été incapables de mettre en place un véritable périmètre de protection sur cette zone en privilégiant une agriculture respectueuse de l'environnement et, par exemple, l'agriculture biologique, je dirais surtout l'agriculture biologique. Résultat, même dans ces endroits sensibles, on a un projet qui est très menaçant, qui est en train de voir le jour. Alors, deuxième, autre gros dossier, c'est les pollutions dites accidentelles à répétition. Il faut savoir qu'en Finistère, entre 2019 et 2020, il y a eu... de 2018 et 2019, pardon... Il y a eu 30 pollutions dites accidentelles, essentiellement agricoles, provenant d'élevages, de gros élevages industriels, pourtant souvent équipés de stations d'épuration, mais du fait de bugs informatiques, d'un manque de vigilance sur la gestion des installations, il y a des dizaines de mètres cubes de lisier traités ou non qui partent à la rivière, et ça a occasionné des dizaines, voire des centaines de kilomètres de cours d'eau qui ont été impactés par ces pollutions graves.
Arnaud, un petit mot pour...
C'est un des sujets. Alors évidemment, Jean-Yves connaît extrêmement bien ça et c'est vrai qu'on travaille main dans la main là-dessus. Mais c'est, ce dernier sujet, c'est un des plaidoyers que l'on porte collectivement avec certaines APPMA, c'est d'obtenir des moyens de lutter contre la vétusté d'un certain nombre d'élevages, des contrôles techniques, des moyens de contrôle. Enfin, il y a des solutions, il y a des réponses à ça, mais il faut s'en préoccuper et on n'est jamais assez nombreux pour le faire. Et je voulais juste redire sur la mobilisation citoyenne qu'il y a un chantier là qu'on doit entreprendre ensemble, qui est de moderniser un peu la vision que peuvent avoir les jeunes de l'entretien des espaces naturels. Ce que les jeunes ont fait dans les années 70, les jeunes d'aujourd'hui sont aussi capables de le faire. Je pense qu'on a une approche à repenser. On les voit facilement aller ramasser des déchets sur les plages. Je pense qu'il y a au moins tout autant à faire au bord des rivières et autre chose que de ramasser les déchets des autres. Je pense qu'on peut... On peut avoir une approche de génie écologique autour de ces sujets. Ce qui, voilà, c'est une main tendue, mais il le sait, Jean-Yves, sur le sujet.
Ouais. Bonjour. Ouais, je dirais, pour terminer, que le troisième point qui nous inquiète beaucoup, c'est, et on tire la sonnette d'alarme depuis, j'allais dire, plus de 10 ans, c'est l'artificialisation croissante du territoire. La France, on le sait, perd l'équivalent d'un département tous les 7 ans sous le bitume et sous le béton, et malgré les recommandations, les mesures nationales qui commencent à prendre forme, on continue à artificialiser le territoire, et la Bretagne est la troisième région la plus artificialisée de France, et ça c'est une véritable catastrophe en matière de ruissellement, en matière d'atteinte à la biodiversité, de pollution, etc. C'est une catastrophe.
Bon, bah, on termine sur cette note l'émission. Merci en tout cas à Jean-Yves Karmarek donc pour la PPMA de l'Élorne. Et puis merci aux Rivières de Bretagne qu'on retrouvera pas plus tard que le 15 avril. À bientôt.
Merci à vous.